Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On dit que l'écrivain meurt deux fois, d'abord comme nous tous, puis ce sont ses œuvres qui s'éteignent peu à peu. Et même si la littérature française ne connaît pas actuellement une existence particulièrement faste, les lecteurs semblent s'attacher à la seule littérature contemporaine, aux livres qui viennent de sortir, dont on parle, aux auteurs que l'on voit à la télé ou dans les revues. Place à la nouveauté, bien sûr, mais enfin. José Cabanis fait partie de ces auteurs du XXe siècle ayant à leur actif une œuvre importante et qui pourtant sont un peu délaissés malgré une vie consacrée à la création littéraire. Par bonheur, certains se chargent de raviver les mémoires en rappelant tout ce que l'on doit à ces talents qui font partie de notre patrimoine. Merci à Jacques Cantier pour cet essai intitulé « José Cabanis, un Toulousain sous la coupole », édité par les éditions Midi-Pyrénéennes, ouvrage qui fait redécouvrir, si nécessaire, cette grande figure de la vie intellectuelle de Toulouse. Jacques Cantier, bonjour.
Bonjour Anna.
Alors vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Vous aviez écrit un ouvrage intitulé « Histoire culturelle de la France au XXe siècle » et l'œuvre de José Cabanis s'inscrit donc tout naturellement dans cette période-là.
Oui, tout à fait, oui. Moi, je suis effectivement un historien qui s'intéresse à l'histoire culturelle et qui, par ce biais de l'histoire culturelle, peut aussi rencontrer la création littéraire, puisque la création littéraire est aussi une des expressions de cette histoire culturelle de la France au XXe siècle. Donc, c'est un point de rencontre pour repartir vers la littérature, oui.
Oui. Alors, donc, voici un ouvrage que vous consacrez à José Cabanis, un essai qui est édité donc par les éditions Midi-Pyrénéennes dans cette collection qui est assez, très intéressante cette année-là à Toulouse.
Oui, c'est une collection qui a effectivement pris sa place maintenant dans le paysage éditorial toulousain. C'est une collection d'histoire qui revisite l'histoire de la Ville Rose avec un cahier des charges qui est assez spécifique puisqu'on part d'un événement. Mmh. Donc tous les livres partiront d'un événement dont on fait le récit. Dans une deuxième partie, on essaie d'analyser en fait le terreau que révèle cet événement, les structures qu'il peut mettre en évidence. Et puis la troisième partie se penche sur les mémoires. Mmh. Donc en ce qui me concerne, l'événement a été l'élection de José Cabanis à l'Académie française.
Voilà,
et c'est l'occasion de ce retour.
On va en parler. Dans quelle intention vous l'avez-vous écrit ?
Alors moi je l'ai écrit parce que je suis un lecteur assidu de José Cabanis depuis longtemps. J'ai découvert son œuvre, je pense, quand j'ai commencé mes études à Toulouse, donc au milieu des années 80. Et depuis, je l'ai lu de façon très, très régulière et avec beaucoup de bonheur. Donc lorsque les éditions Midi-Pyrénéennes m'ont demandé si j'avais un volume à leur proposer, cette idée de partir de l'élection de 1991 et de revenir sur l'œuvre et le parcours de José Cabanis, m'a semblé une bonne idée.
Oui, et en plus, je pense que ce type d'ouvrage permet au lecteur d'avoir un regain d'attention, justement, vous donner un éclairage à nouveau sur ces personnalités, et puis aux plus jeunes, de faire connaître cette personne ou le cadre, enfin, ça dépend évidemment du thème, mais là, en l'occurrence, et de susciter l'envie de le découvrir plus précisément encore.
Oui, j'aimerais bien que ce soit un des effets du livre, d'autant plus qu'on est en 2022, donc la semaine dernière, on a fêté le centenaire de la naissance de José Cabanis. Il est né le 24 mars 1922, donc ça fait tout juste 100 ans. Donc si cette année commémorative pouvait ramener de nouveaux lecteurs vers José Cabanis, je pense que ça serait une bonne chose, parce que tous les Toulousains connaissent son nom.
Oui, mais il parle d'abord de médiathèque.
À cause de la médiathèque, oui. Voilà. Mais peu connaissent effectivement le personnage et l'auteur qu'il y a derrière l'homme de la médiathèque.
Et je me suis dit aussi que le temps, la distance, donnent peut-être un éclairage différent, peut-être plus objectif sur l'œuvre.
Le fait est qu'avec cette distance, on comprend aussi la logique de l'œuvre, parce qu'on voit que finalement il y a des époques différentes dans cette carrière de José Cabanis. Il y a plusieurs cycles romanesques. Il vient le temps des essais historiques, le temps des essais littéraires. Mais peut-être qu'avec le recul, on voit qu'à travers toutes ces étapes, à travers ces formes, assez différente. Il y a une logique, ouais. Il y a une recherche commune. Ouais. Depuis le premier livre jusqu'au dernier, il y a cette quête de soi, cette quête spirituelle qui apparaît dans sa logique, peut-être effectivement avec ce petit recul d'une vingtaine d'années.
Vous parlez de quête spirituelle, alors je vais vous dire que nous avons un ouvrage dédicacé de José Cabanis quand il était venu, il était à votre place, je l'avais interviewé 6 mois avant sa mort d'ailleurs, pour Radio Présence, qui m'a fait tant de bien pendant tant de jours, surtout pendant tant de nuits, avec gratitude, José Cabanis. Voilà.
C'est une belle dédicace.
Une belle dédicace, oui. Alors, votre ouvrage, comme vous le mentionnez, commence au Quai Conti par une consécration nationale. José Cabanis revêt l'habit vert de l'Académie française. Et nous sommes en
1991.
C'est une étonnante consécration dans le fond.
Oui, c'est une étonnante consécration parce que sa vie a été une vie un peu en marge des mondanités. Le choix qu'il a fait, c'est vraiment de rester d'abord dans sa ville natale, dans sa maison natale de Nolay, de mener cette vie vraiment d'écriture.
Loin des
coteries parisiennes. Mais en même temps, je pense qu'ayant fait ce choix d'une voie très singulière, très personnelle, il était heureux aussi, arrivé à la maturité, que cette voie singulière soit reconnue par les pairs et par l'élection à l'Académie française, celui qui avait été un solitaire, finalement.
Ours, disons-le.
Oui, il fait apparaître l'ours sur son épée d'académicien.
Oui.
L'ours des Pyrénées figure, effectivement. Là, retrouve effectivement la sociabilité d'écrivain qui compte pour lui, oui. Et de cette institution qui est un symbole de continuité, oui.
Oui, et d'ailleurs, il avait quand même, il avait des amitiés parmi les écrivains. En fait, il était peut-être ours, bon, mais il avait beaucoup d'amitiés et d'échanges épistolaires.
Oui, ces archives ont été données à la bibliothèque municipale du Périgord à Toulouse. Et une partie de ces archives est composée de ces correspondances. Et on voit effectivement que, tout en étant effectivement toulousain, il a beaucoup de contacts avec avec son éditeur, avec la maison d'édition Gallimard et des gens comme Roger Grenier.
On parlera de sa gratitude à l'égard de Gallimard. Oui.
Mais il est aussi en contact effectivement avec des auteurs qui peuvent être d'ailleurs assez différents de lui, comme Louis Guilloux, avec qui il a une correspondance assez intéressante, dont on voit les traces à la bibliothèque municipale. Il est en rapport avec Marcel Arlan, l'homme de la NRF. D'ailleurs, sa première candidature à l'Académie française était sur le siège laissé vacant de Marcel Arlan, ce qui aurait eu du sens parce qu'Arlan l'avait encouragé dans cette voie. Quelques années plus tôt. Donc oui, le solitaire envoie ses livres aux écrivains qu'il estime, attend avec impatience leur retour, oui. Et il y a une sociabilité d'écriture. Alors c'est vrai que dans les correspondances, je l'ai vu dans la correspondance avec Jean Grenier, par exemple, le philosophe Jean Grenier. Jean Grenier se plaint de ne pas plus le voir à Paris, lui demande de signaler à l'avance s'il est venu à Paris pour pouvoir le rencontrer. Donc ses amis parisiens voudraient le voir peut-être plus souvent, mais à défaut de le voir, ils correspondent. Et par ce biais-là, Cabanis est intégré dans une république des lettres.
Je crois qu'il a reçu certains à Nolay même.
Oui, il a reçu Julien Green à Nolay, qui dans son journal raconte cette visite à Nolay dans les années 80. Mmh. Il avait un lien fort avec Julien Green puisqu'il a préfacé plusieurs volumes de la Pléiade, des œuvres de Julien Green dans la Pléiade. Louis Guilloux également est venu à Nolay. Mmh.
Alors, entrer à l'Académie française, c'est à la fois, bien sûr, une reconnaissance du talent, de l'œuvre d'un homme, et c'est également un devoir à assumer.
Oui, il y a des rituels académiques. Claude Lévi-Strauss, qui l'avait précédé de quelques années à l'Académie française, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss disait que l'Académie était une sorte de tribu d'Indiens avec ses rites particuliers.
Il savait de quoi il parlait.
Et il savait de quoi il parlait. Et quand on rentre dans cette tribu, donc il faut en accepter les rites. Il y a toute une série effectivement d'étapes à franchir, constituer le comité de l'épée, préparer l'habit académique, préparer le discours, ce qui est une tâche parfois difficile, puisque Cabanis succède à Thierry Molnier, qui est un personnage qui prêtait à discussion, et on voit là encore dans ses brouillons qu'il a pesé chacun des mots. Oui.
Et il n'aimait pas, il préférait l'écriture à la parole. Hein.
Oui, c'est un homme d'écriture plus qu'un homme de parole. Il avait commencé une carrière d'avocat et puis il a bifurqué vers une carrière d'expert auprès des tribunaux, oui. Parce qu'il préférait effectivement rendre une expertise que faire une plaidoirie.
Oui, alors oui, donc ils sont chargés, ces académiciens, de contribuer évidemment à but non lucratif, au perfectionnement et au rayonnement des lettres. Et après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a toujours le dictionnaire ?
Oui.
Parce que bizarrement, il n'y a pas de linguiste.
Il peut y en avoir dans la troupe. Et en tout cas, José Cabanis, tant que sa santé lui a permis, a été régulier aux séances du dictionnaire.
Oui, plus que Marguerite Yourcenar, hein, je crois.
Oui. Il a été... Il s'est passionné pour ces séances du dictionnaire. Il y a quelques courriers d'Hélène Carrère d'Ancos dans les archives qui nous montrent qu'il avait su nouer là, des liens de sociabilité avec ses collègues.
Oui, Hélène Carrère d'Ancos, une grande amie aussi de Jean d'Ormesson, qui est venu ici plusieurs fois.
Et Jean d'Ormesson est venu aussi à Nolay.
On a des
courriers de Jean d'Ormesson qui, dans une de ses lettres, il dit que les meilleures amitiés sont celles qui commencent par des livres. Et de la lecture, ils sont passés effectivement à une relation amicale.
Alors, quand je vous disais que c'était une étonnante consécration, parce qu'après coup, je me suis dit, lui qui était très sensible, on en parlera d'ailleurs à quel moment justement ce sentiment s'est forgé, qui était très sensible à l'injustice sociale, est-ce qu'il voyait, il voyait bien que la majorité des élus former une cohésion sociale qui faisait partie d'une forme de société quand même éducation, même milieu en règle générale, chez les académiciens.
Oui, les pères, effectivement, sont des gens qui ont eu des trajectoires un peu comparables à la sienne, effectivement, celle d'une bonne éducation bourgeoise dans cette période. Mais pour lui, je crois qu'il n'y avait pas de contradiction entre une certaine sensibilité à la question sociale qui s'est affirmée chez lui assez jeune, notamment au moment du STO, et qui l'a mené jusque-là à se tenir à l'écart des honneurs. Et puis,
On peut le penser même gauchiste. Alors là, c'était...
Oui, alors un de ses échecs à l'Académie, il l'attribue à Jean Dutour, qu'il l'aurait considéré comme un dangereux gauchiste à cause de textes un peu critiques.
Connaissant sa forme d'humour, ça devait quand même vraiment le faire sourire. Et moi, je souris aussi parce que à l'Académie, quand il est entré à l'Académie des Jeux Floraux, il avait 5 ancêtres qui étaient passés par l'Académie des Jeux Floraux. Et il avait déclaré... Trop cher dans l'ordre du sentiment et trop éloigné dans l'ordre des idées.
Oui.
Et je trouvais que c'était bien tourné.
Oui, il mettait à la fois la proximité. Voilà.
Oui, la proximité familiale, affective.
Et en même temps, il le dit d'ailleurs dans la bataille de Toulouse aussi, où il raconte l'histoire de la maison finalement sur 2 siècles. Et il dit, si tous les gens qui l'ont habité se retrouvaient ce soir autour de la table, nous aurions sans doute du mal à nous entendre. Et en même temps, je verrais sur leur visage des ressemblances et des similitudes, puisqu'ils sont à la fois ceux dont je viens, mais ceux dont je me suis aussi éloigné par mes idées, mon propre itinéraire. Oui.
Alors, cette entrée à l'Académie française a suscité une grande émotion chez cet homme qui, en fait, était modeste.
Oui, je crois qu'il y a chez lui cette forme de modestie qui l'a amené à... s'éloigner jusque-là des honneurs. Lorsqu'il est rentré à l'Académie des Jeux Floraux, il a eu un petit malaise pendant le discours inaugural, parce que sans doute là aussi, il y avait une forme d'émotion à se retrouver dans cette situation. Alors lui-même, effectivement, a voulu malgré tout cette consécration, je pense.
Oui, puisqu'il a postulé 3 fois.
Parce que c'est un homme modeste et inquiet. Dans les derniers textes, on voit l'inquiétude. Est-ce que son œuvre a été comprise ? Est-ce qu'il est allé aussi loin qu'il le souhaitait ? Et donc, il y avait peut-être une volonté de réassurance aussi par la réception à l'Académie. C'était une façon de dire que cette œuvre avait été comprise par certains. C'était une façon aussi de la faire connaître par d'autres. Donc, cette inquiétude sur le geste d'écriture, on la voit de plus en plus présente dans les dernières années. Est-ce que l'écrivain a réussi son coup ?
Exactement. Et alors, ce que je trouve formidable chez cet homme, c'est cette capacité à remercier, ce qui n'est pas fréquent finalement, à ne pas oublier tous ceux qui, d'une part, il a remercié ceux qui l'ont élu à ce siège. Vous avez comblé un vrai provincial, dit-il. Et c'est vrai que ce n'était pas courant. Et puis, dans son discours, il n'oublie pas de remercier quand même pas mal de monde, y compris de gens de la région, d'ici, de Toulouse.
Oui. Alors, dans le discours également qu'il prononce quelques jours avant, il y a eu une petite réception dans les salons Gallimard. Et là, il prononce un petit discours dans lequel il revient effectivement sur ses maîtres jésuites du Caousou. Alors qu'il en avait été exclu en 1939.
Pourquoi ? Il chahutait ? C'était un chahuteur ?
Non, c'était le contraire d'un chahuteur. On le trouvait trop replié peut-être sur lui-même. On trouvait qu'il ne
qu'il était un peu
solitaire. Mais malgré tout, il rendra hommage à ses maîtres du Caousou pour la
culture. Oui, Yankelevitch aussi au Yankelevitch, lycée Fermat.
Quand Guillaume au lycée Fermat et Yankelevitch à la faculté, effectivement, pendant la période de la guerre.
Voilà, alors évidemment, les notables de la ville, en fait, Dominique Baudis, qui était le maire de l'époque, Marc Sancy, Georges Maillos, que nous avons connu, qui est venu ici, qui était professeur qui est décédé il n'y a pas très longtemps.
Qui a été président de notre université.
Voilà, exactement.
Qui a été le président de l'université.
Oui, oui. Donc, qui connaissait bien. Et Georges Housset, l'iconique libraire, je dirais, parce que quels étudiants n'ont pas connu Georges Housset, la Bible d'or. C'est un homme qui était capable de prêter des livres.
Moi, dans ma connaissance de Cabanis, Georges Housset a joué un rôle parce que, effectivement, j'avais commencé à lire quelques livres. Je lui ai parlé de mon goût pour Cabanis, donc c'était à la fin des années 80. Et il m'a fait découvrir dans ses rayonnages, effectivement, il avait tous les livres de José Cabanis. La Bible d'or, c'était à la fois un tout petit lieu, mais qui était d'une densité extraordinaire. Il y avait des réserves.
Et un homme très généreux à tout point de vue.
Tout à fait, oui. Et moi, il m'a fait, effectivement, il a complété ma connaissance de l'œuvre de Cabanis, pour qui il avait une vraie admiration.
Un libraire vraiment extraordinaire. Pas qu'un libraire d'ailleurs, pas uniquement.
Je me rappelle de sa voix un peu éraillée.
Oui. Je me demandais s'il fumait beaucoup.
C'est assez triste parce que la librairie, finalement, lui a survécu quelques années. Et puis, jusqu'à l'année dernière, il y avait encore les livres sur les rayonnages. Et puis,
il n'y a pas eu de successeur, finalement.
Il n'y a pas eu de successeur et les rayonnages ont été maintenant vidés l'année dernière.
Ouais. Sa chère province l'a remercié, l'a honoré également, puisque, alors évidemment, c'est moins grandiose, mais quand même, il y a évidemment la médiathèque José Cabanis, et alors j'ai honte de vous le dire, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait une phrase de lui inscrite sur un mur.
Oui, il y a une phrase, effectivement. Alors je me demande si elle y est encore, parce qu'il y a eu des travaux l'année dernière, et il est possible qu'elle soit plus difficile à voir aujourd'hui. Mais effectivement, on a inauguré la médiathèque avec cette phrase qui dit que toutes les vies, même les plus modestes, mériteraient d'être racontées. Et c'était une belle phrase de José Cabanis. Donc là, en 2005, effectivement, on a rendu un bel hommage à cet homme de lettres, lui dédiant cette nouvelle médiathèque. Je pense que c'est quelque chose qui compte pour sa mémoire auprès des Toulousains.
Oui.
Et c'est une belle forme de reconnaissance, oui.
Alors, Balma lui a donné son nom à une école.
Oui.
Fonsegrive à une rue, voilà. Bon, parlons de l'homme maintenant. J'ai parlé de sa modestie que l'on retrouve encore dans la reconnaissance qu'il éprouve à l'égard de bien des personnes. Vous avez parlé des jésuites. On n'a pas dit la dynastie Gallimard, il les a tous connus.
Oui, c'est vrai que c'est un écrivain qui, dès ses débuts, est rentré par la voie royale dans la littérature, puisque son premier livre est publié chez Gallimard. Et il restera fidèle à Gallimard tout au long de sa carrière, et Gallimard sera tout à fait fidèle à son égard également. Je crois que la relation la plus forte, ça a été avec Claude Gallimard. Gaston était un patriarche un peu imposant, mais Claude Gallimard est vraiment celui qui a...
C'est le plus jeune ?
Ah non, c'est
Non, c'était l'intermédiaire.
C'est le fils
Oui,
de Gaston
Antoine, oui, voilà.
et le père du directeur actuel. Dans la correspondance, on voit que voilà, il y a une relation importante avec Claude Gallimard, notamment dans les années 70, où José Cabanis a un peu un moment une crise de doute
passage
sur
à vide.
Un passage
Oui.
à vide. Il veut arrêter le roman, il se demande quelle suite donner à ça.
Ouais. On parlera carrière. De son œuvre parce qu'elle est importante, justement. Quel trait de caractère, selon vous, le caractérise?
C'est un homme d'une immense culture, c'est un homme donc assez solitaire dans son mode de fonctionnement. C'est un homme aussi extrêmement travailleur.
Oui.
Ces jours-ci, je regardais les différentes moutures des manuscrits à la bibliothèque de Toulouse. On voit le travail extraordinaire. Les manuscrits, les textes de ces livres sont repris 7 fois, 8 fois, 9 fois.
Ah oui, il y a beaucoup de repentir.
Ah, il y a beaucoup de repentir et jusqu'à des versions très abouties, on a encore.
Oui, oui.
Donc tout ça a été fait en plus d'une vie professionnelle. Donc là, ça suppose un perfectionnisme.
Bien sûr, bien sûr.
Alors tout ça ne se voit pas. Le lecteur découvre le livre terminé. Mais on mesure tout le travail qu'il y a eu, toute la part nocturne, puisque c'est dans les nuits de Nolay qu'il rédige ses livres.
Oui. Très discret, un homme très discret.
Oui.
Vous dites solitaire, il me semble qu'il avait vraiment un goût de l'indépendance, avait de la liberté.
Oui, sa carrière professionnelle a été une contrainte pour lui, mais lui donnait l'indépendance matérielle. Et il a pu écrire les livres qu'il souhaitait. L'éloignement des coteries parisiennes dont on parlait tout à l'heure aussi lui ont donné une forme d'indépendance.
Oui.
Il n'a écrit que ce qu'il voulait, comme il le voulait, au rythme où il le voulait.
Oui.
Donc là,
parce que le barreau, c'était trop contraignant finalement. Ça l'obligeait à rencontrer des personnes qu'il ne choisissait pas.
Oui, dans ses romans, tous les...
Il est très sévère.
Hein, oui, toutes les professions juridiques n'apparaissent pas sous un jour très, très favorable.
Oui.
Ses collègues avocats ou magistrats dans les romans sont
souvent... Oui, il veut être libre. Et puis, il dit à un moment donné, je ne sais plus dans quel... Il veut être enfermé, ou alors peut-être l'ai-je entendu, il veut être enfermé ni à Paris, ni ailleurs.
Oui, il ne veut pas non plus être considéré comme un écrivain régionaliste.
Oui, qui n'est pas, effectivement.
Qui n'est pas, il écrit à Toulouse, mais il écrit sur des sujets universels.
Et en même temps, il a quand même un goût pour la province et pour la terre, pour la nature, disons.
Oui, on voit que la maison de Nolay, c'est le lieu du ressourcement. Il écrit des choses très belles, effectivement, sur les saisons qui passent dans cette campagne.
Et dans ce parc qui est admirable.
De Balma, oui. Il raconte quand il rentre de l'école, dans la période des années 20, le vent dans la nuit, dans la campagne. Il y a vraiment des pages très belles là, sur cette campagne de Balma. Isolé.
Et puis plus tard, justement, il regrette qu'il y ait de plus en plus de lumière.
Oui.
Il y a des constructions qui abîment.
Oui, dans beaucoup de romans, il nous dit, effectivement, le narrateur dit qu'il voit deux points lumineux dans le loin qui annoncent la ville de Toulouse. Et puis, dans les derniers romans, ce ne sont plus les deux points lumineux au loin. Ce sont effectivement la ville s'est rapprochée, les bretelles d'autoroute ne sont pas très loin de Balma.
Ah oui,
de
il y a
Balma,
eu énormément de changements dans
beaucoup
dans
de choses, effectivement, se sont transformées.
Voilà, alors sa famille, donc c'est une famille de notaires, de notables, un ancêtre maire de Toulouse. Alors, c'est l'unique fils de son père, le quatrième enfant de sa mère, parce que c'est intéressant, parce que son père et sa mère, tous deux étaient veufs, donc, et ils se sont belles-sœurs et beaux-frères, et ils se sont mariés. Et donc, ils ont eu José Cabanis, qui a été leur fils à tous deux. Voilà. Alors, il a vécu, comme vous venez d'en parler, à Nolay et rue d'Arquier. Et il a eu une vie finalement heureuse et préservée. On parlera ensuite de ce qu'il dit dans la Gingra, mais en fait...
Si on met à l'écart la période de la guerre, où là il y a eu une série d'épreuves, il y a eu la perte du frère en 1940...
Oui.
Le frère le plus jeune, donc celui qui était le plus proche de lui. Et puis il y a eu l'épisode du STO qui est un épisode difficile.
Voilà.
Mais effectivement, si on met à part cette parenthèse de la guerre, qui est importante malgré tout parce qu'elle a,
qui a marqué... modifié son point de vue.
Voilà. Jusque-là, effectivement, il pouvait avoir un point de vue un peu insouciant, voilà, d'enfant de bonne famille.
Oui, gâté, en gâté, fait, hein, par la vie.
Il est le dernier, donc il est à la fois gâté par les parents et par les aînés de la fratrie. Et là, il se retrouve dans une usine en Allemagne. Il connaîtra l'Allemagne bombardée des dernières semaines de la guerre.
Et puis, il a une conscience tout d'un coup de l'injustice, de la misère sociale.
Oui, il découvre le travail manuel.
Il est
en atelier à la chaîne, la fatigue, le brassage des classes sociales, beaucoup plus grand effectivement que dans les établissements scolaires qu'il avait pu fréquenter jusque-là. Donc, ça va effectivement modifier sa vision des choses et influer sur la suite du parcours. Oui.
Et puis on sent dans ses écrits, des écrits, des lettres qu'il écrit à sa famille, cette nostalgie de la famille et cette nostalgie de la France.
Oui, ces lettres sont très émouvantes à ses parents. Ce sont des parents âgés à ce moment-là. Et il en a publié quelques-unes dans les lettres de la Forêt Noire, où il publie à la fois ses lettres et les réponses de ses parents. Et c'est vrai que c'est une correspondance assez touchante, avec même parfois des choses qui touchent par l'injustice. À un moment, il leur écrit une lettre où il dit que ses camarades reçoivent plus d'argent que lui et que ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas été... Et effectivement, les lettres arrivent ensuite en bloc. Deux ou trois jours plus tard, il reçoit trois lettres qui avaient été retardées par la poste. Et ses parents sont évidemment très attristés du reproche. Donc c'est assez touchant de voir cette correspondance familiale.
En tout cas, la nostalgie de la France, on va l'illustrer par une chanson que vous avez choisie et je trouve qu'elle est très belle. C'est Douce France. C'est une chanson qu'on écoutait à cette époque-là.
C'est une chanson de l'époque et que Trenet avait écrit pour tous ceux qui étaient en fait exilés à ce moment-là, que ce soit les prisonniers de guerre ou les jeunes du STO qui réfléchissaient, qui se rappelaient cette France.
La nostalgie de
cette nostalgie
France douce.
Voilà, de la douce France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. je t'ai gardé dans mon cœur.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà une chanson pleine de nostalgie qu'en effet tous les genre les hommes, les femmes pendant la guerre, en prison, en STO ou dans les maquis, devaient écouter quand ils le pouvaient. D'ailleurs, on se demande comment ils ne pouvaient pas forcément, devaient écouter avec vraiment beaucoup d'émotion. Donc, la guerre se termine. Que se passe-t-il pour José Cabanis?
Donc, lui revient à Toulouse, il termine ses études. Il commence donc une carrière d'avocat, mais qui ne lui apporte pas toutes les satisfactions. Et donc, il va bifurquer vers la carrière d'expert. Et en même temps, c'est le début de l'écriture, parce qu'il le dit à vraiment plusieurs reprises, l'écriture est vraiment sa vocation.
Oui.
Tout au long de sa vie, c'est vraiment la question qui se pose pour lui, de répondre à cet appel, de cette vocation impérieuse, de savoir s'il y a répondu comme il fallait. Donc en 1947, il a tenté un premier livre inspiré par le STO, dont on ne sait pas grand-chose. Il n'a pas trouvé éditeur et il a sans doute été détruit. Et puis commence le premier cycle, qui est celui de la Gingras.
Alors, voilà, pour les auditeurs qui auraient pris l'émission en cours de route après cette pause musicale, je ne rappelle que je suis en compagnie de Jacques Cantier, qui a écrit un ouvrage intitulé « José Cabanis, un Toulousain sous la coupole » aux éditions Midi Pyrénéennes. Et nous parlons donc, bien entendu, de José Cabanis. Et là, nous sortons de la guerre. Il s'inscrit au barreau, puis il est expert auprès des tribunaux. Est-ce que vous pensez que ça le rend heureux, cela ?
Non, ça, il le dit à plusieurs reprises. Son activité professionnelle est alimentaire, elle lui assure l'indépendance. Mais voilà, la vocation, c'est vraiment l'écriture. Et c'est à cette vocation qu'il va consacrer toute sa vie.
Une nécessité.
C'est une nécessité, oui.
À un moment donné...
Y compris, dit-il, même s'il faut blesser parfois les siens, parce que ses livres ne sont pas toujours compris par ses proches, par sa famille... Mais il a le sentiment qu'il doit dire sa vérité, quel qu'en soit le prix.
Oui.
Et c'est cette vérité qu'il dévoile de livre en livre.
Je vous permettez, j'ai votre ouvrage et vous de citer « On n'écrit rien qui vaille tant qu'on n'a pas vidé son sac. Quoi qu'il en coûte, voir se détourner de vous les honnêtes gens, c'est un plaisir. Il ne faut pas craindre de passer pour un sot. Rien ne mérite d'être écrit que ce que l'on n'oserait dire à personne » face à face, et qui brave l'honnêteté et toutes les convenances, bien entendu, mais aussi le ridicule. C'est à ce seuil que beaucoup s'arrêtent et se perdent.
Oui, je crois que ça résume très bien son projet littéraire. C'est vraiment cette idée d'arriver jusqu'à la vérité, ce que personne d'autre que soi pourrait dire, quel qu'en soit le prix.
Oui. En fait, ce qui m'a frappé aussi, non seulement c'est une forme de modestie, mais sa sincérité.
Oui, il y a cette volonté vraiment d'aller au bout de cette vérité, de creuser cette vérité autant que possible. Et la recherche de la forme ensuite est la mieux adaptée à cette vérité, oui.
Donc, il voulait écrire et alors je me suis dit, ah, il y avait une hérédité parce qu'il avait un ancêtre qui avait écrit.
Oui, il y avait l'écrivain de la famille dont il parle beaucoup, c'est l'oncle Octave, dans Le Bonheur du jour notamment. On le voit apparaître. Alors, c'est un écrivain estimable qui a écrit des vers comme on pouvait les écrire dans la période de l'entre-deux-guerres, mais dont l'œuvre, effectivement, n'a pas percé. Et il y a toute une série de scènes un peu tristes sur cet homme qui a des grandes ambitions, mais qui n'a pas véritablement réussi à trouver sa voie, en fait.
Oui.
Il y a une scène, notamment, où l'oncle Octave présente Paul Valéry devant un public toulousain, résume l'œuvre de Valéry et introduit le conférencier. Alors Paul Valéry le remercie avec beaucoup d'effusion, lui dit « Jamais je ne me suis senti aussi bien compris que par vous ». Et puis, à la fin, il n'y aura pas de suite. Et Valéry lui dédicace un livre en disant « Merci pour votre petit discours
».
Et ce mot « petit
tout.
Discours », effectivement, sera
blessant
pour l'oncle Octave.
Alors, il a écrit... des essais historiques, des ouvrages historiques, des biographies et des romans. Alors, l'historien, oui, il avait fait des études pour cela, il me semble, non ?
Alors, ces études sont des études de droit oui. Et de philosophie, oui. Mais disons que c'est un historien de la littérature, c'est quelqu'un qui a une culture personnelle très, très riche. Sa méthode n'est pas celle d'un historien universitaire.
Oui.
C'est vraiment quelqu'un qui lit qui ne va pas en archives, mais qui lit beaucoup les mémorialistes de la période. Il connaît tous ceux qui ont raconté une période. Il est imprégné de toutes ces lectures. Et ensuite, il va composer ses œuvres, même historiques, avec un souci littéraire.
Oui.
Ça n'est jamais linéaire chez lui. Il ne raconte jamais, comme le ferait un historien,
voilà,
le déroulement des causes. C'est une galerie de portraits, c'est des apartés. Mmh. Il dit que voilà, sa méthode est volontiers sinueuse.
Comme un roman, mais vrai.
Voilà, comme un roman, mais vrai.
Oui.
Mais l'objet littéraire, l'ambition
littéraire
reste présente, y compris dans les essais historiques.
Alors, il y a eu le sacre de Napoléon, Charles X, roi ultra, Michelet, le prêtre et la femme, etc. Alors, il y a également, il a écrit plusieurs biographies, Saint-Simon, Charles X, Lacordaire, Michelet, Mauriac, Julien Green. Et alors là, alors il me semble que dans Magnificat, à la page 67, je pense que Mauriac et Julien Gris étaient assez fréquemment en opposition.
Alors, Julien Green a succédé à l'Académie française au fauteuil de François Mauriac. Et ce sont deux auteurs qui ont beaucoup compté pour José Cabanis. Mauriac était le grand écrivain catholique de la période de la jeunesse de Cabanis. Julien Green, il le découvrira un peu plus tard. Mais Cabanis place peut-être Julien Green encore au-dessus de Mauriac.
Il est plus proche de lui.
Parce qu'il reproche, dans l'essai qu'il fait sur Mauriac, il dit effectivement toutes les qualités littéraires, tout ce qu'il trouve dans cette œuvre de Mauriac. Il lui reproche d'avoir parfois des fins édifiantes dans ses romans, de faire réapparaître de façon un peu forcée la morale, alors que Julien Green suit plus la logique des personnages. Mais les deux auteurs sont pour lui deux auteurs très importants qui ont marqué toute sa carrière. Il a été reçu à Malagar par François Mauriac et il aura une amitié forte avec les deux fils de François Mauriac,
Claude Mauriac
et Jean Mauriac. Et avec Claude Mauriac, il y a vraiment dans les dernières années de Claude
était,
Mauriac.
Qui était journaliste quand même, non ?
Alors, Jean Mauriac était journaliste.
Jean Mauriac, oui.
Et Claude Mauriac a été aussi un écrivain
qui a
publié un long journal. Littéraire très intéressant aussi, et ils ont vraiment été très proches dans les années 80-90. Il y a une grande amitié entre José Cabanis et Claude Mauriac.
Il me semble qu'il tenait une chronique dans un journal, dans une revue.
Oui, il a beaucoup écrit sur l'actualité littéraire, sur
la
littéraire.
Alors, José Cabanis, le romancier, on y arrive. Évidemment, alors il aimait rappeler cette prière de Tolstoï quand on parlait de style. « Mon Dieu, donnez-moi la simplicité du style. » Il l'avait.
Oui, il l'avait. Quand on lit ses romans, on a à la fois cette simplicité du style, cette limpidité. Et en même temps, on se rend compte que c'est quelque chose de très construit. C'est une œuvre qui a été réfléchie pour constituer une sorte de comédie humaine avec des personnages que l'on retrouve d'un volume à l'autre.
Un peu comme dans La veine de Proust, finalement.
Oui, un peu comme dans La veine de Proust ou de Balzac.
On retrouve les mêmes personnages.
Oui, quand il a été reçu à l'Académie des Jeux Floraux, il a fait un discours à la gloire de Balzac, en fait. Un hommage à Balzac, et on peut penser qu'il y a effectivement des correspondances entre ces comédies humaines où ces personnages se retrouvent et se croisent. Donc à la fois la simplicité de l'écriture, mais au prix de ces relectures très nombreuses des œuvres, de cette recherche du mot juste et de la forme juste.
Oui.
Et puis une œuvre qui est aussi complexe finalement dans ses équilibres généraux.
Est-ce qu'on considère que c'est de la fiction ou de l'autofiction ou un peu des deux ? Gilbert est-il José ?
Alors c'est effectivement quelqu'un qui a joué sur cette frontière entre la fiction et l'autofiction. Le premier cycle romanesque est un peu plus dans le registre de la fiction, puisque il y a le personnage Gilbert Salamagnou donc, est un personnage créé. Dans le deuxième cycle romanesque, on a un narrateur qui parle à la première personne et qui ressemble beaucoup à José Cabanis, puisqu'il habite à Nolay. Il a une histoire qui ressemble beaucoup à celle de l'auteur. Et en même temps, il y a des différences qui sont aussi visibles. On ne le sait pas si on ne parle pas de son mariage, on ne parle pas de ses enfants. Donc voilà, c'est une sorte de double très proche, mais
pas totalement.
Mais pas totalement. Et tout le jeu, voilà, est de s'approcher de l'autobiographie tout en restant dans la fiction. Donc là, il y a une ligne de crête qui.
Sur quelle période s'étend son œuvre? Alors, romanesque.
Son œuvre romanesque, il y a un premier cycle, on peut dire en gros, qui couvre les années 50. Donc c'est le cycle de la Gingras.
Avec quatre autres ouvrages.
Quatre autres ouvrages qui composent le cycle. Et puis un deuxième cycle romanesque qui couvre les années 60. Là, c'est quatre ou cinq romans publiés dans les...
Dont La bataille de Toulouse.
Dans La bataille de Toulouse, oui.
Alors, est-ce que justement, ça va, si je me souviens bien, jusqu'à la guerre d'Algérie, est-ce qu'il y a, on trouve une critique politique dans ces ouvrages?
Oui, alors plus dans le premier. Dans le premier cycle, finalement, on reprend un peu la tradition du roman réaliste. Donc, à travers les personnages, on a aussi un portrait social d'une grande ville de province, de la fin des années 30 jusqu'à la guerre d'Algérie, effectivement.
Oui, c'est plutôt une critique sociale. Hein,
critique sociale, mais il y a aussi du politique.
Du politique aussi.
On voit aussi la période de Vichy, la Légion française des combattants apparaît dans le roman, les fêtes vichistes apparaissent dans le roman. Et il est assez critique pour cette période. Il est tout aussi critique pour la 4e République coloniale qui fait la guerre d'Algérie. Donc le regard est assez critique en général, quelle que soit la période. Il y a aussi une dimension satirique, notamment dans ce premier roman qui est plus social et plus politique. Le deuxième cycle romanesque est plus intime, plus tourné vers... l'histoire des sensibilités, des sentiments. Donc, on est moins politique dans le deuxième roman, dans le deuxième cycle romanesque.
Dans le premier cycle, effectivement, il est assez critique par rapport à la société à laquelle il appartient. Il dit que c'est une société très... En fait, c'était une société très provinciale à l'époque, que l'on ne retrouve plus tellement maintenant, beaucoup moins.
Oui, c'est une société très provinciale. À ses yeux, c'est une société très hypocrite aussi, qui met en avant la morale, mais ne la pratique pas forcément.
C'est injuste.
Injuste aussi. La place de la femme dans cette société est aussi une place très, très infériorisée. Il y a des portraits aussi de types sociaux de l'époque. La femme entretenue, Juliette Bonviol, et qui perd tout quand elle perd son amant. Tant que l'amant est vivant, il l'entretient, mais le jour du testament, il n'y a plus rien pour elle. Ouais. Et la famille ne veut pas savoir qu'elle a existé. Donc il y a cette vision d'une société assez...
une société très hiérarchisée
dure.
Très dure.
Il y a certaines déchéances sociales aussi qui sont évoquées. Une mère qui se retrouve veuve, donc le mari est tué pendant la période de la résistance et qui finit dans la prostitution. Il y a cette espèce de chute sociale et peu d'indulgence et peu de soutien possible pour ces trajectoires difficiles.
Et en fait, on a le sentiment qu'il est assez sévère et pourtant, il a un regard moins sévère sur ces personnes. Et ça, on parlait de l'effet du STO, de son passage au STO, moins sévère justement au regard de ceux qui peuvent être victimes, par exemple, des magistrats ou des avocats, parce que ceux-là, ils en prennent plein leur grade.
Il a été vraiment marqué par la justice des enfants de cette époque, qui était d'une dureté incroyable. Dans l'auberge fameuse, là aussi, c'est des enfants perdus et que personne ne va aider, et d'autant moins les magistrats qui siègent sur leur sort. Et là, dans des journaux intimes, Cabanis dit s'être servi de scènes qu'il a vues, au tribunal où un magistrat a insulté une gamine de 12 ou 13 ans, voilà, qui était dans une situation de misère sociale et morale, ouais. qui ne suscitait aucune compassion de la part de l'institution.
Alors, comme vous dites, dans le second cycle, on voit qu'il explore les élans du cœur, les émois amoureux, la frustration, la déception, etc. En fait, on ne sait plus si c'est une analyse, mais on pense quand même qu'il y a une auto-analyse, malgré tout. Un écrivain se met toujours dans son œuvre, hein, peu ou prou, mais, et c'est très subtil, sans indulgence. Par exemple, il dit « Il n'est personne de plus égoïste peut-être que ceux qui pensent ne l'être pas, comme moi. On se croit très sensé parce qu'on est très attentif à la douleur qu'on éprouve et on devine assez bien celle des autres, mais on mesure avec exactitude la sienne, on la sonde, on ne se lasse pas de s'en repaître et de s'en saouler. De la douleur des autres, on se tient quitte très vite, un rien vous en console et on passe. »
Ça, c'est admirable.
Oui, ah oui, ah oui, vraiment.
C'est José Cabanis, le moraliste, là, en fait.
Oui, oui, oui. Et puis,
le moraliste avec sévère un style avec lui-même. Très,
oui,
voilà.
Absolument.
C'est vraiment...
Oui, oui, très lucide.
Ça pourrait être écrit par un classique du grand siècle, en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Un moraliste, là, très, très
Alors,
aigu.
Évidemment, il fait une bonne description de ce que les adultes appellent l'âge ingrat. D'ailleurs, le terme âge ingrat est un peu dur, parce que finalement, il y a des défauts, évidemment, dans l'âge ingrat, mais tellement d'espérance aussi. En fait, c'est l'homme en pleine construction, et c'est intéressant de voir ça dans cette seconde partie, dans ce second cycle.
Oui, parce qu'il va dire au bout du cycle, finalement... Tous les âges sont l'âge ingrat, en fait.
Oui.
Donc, pour chaque époque de la vie, il voit à la fois les possibilités qu'offre cet âge, mais il en montre aussi l'envers douloureux. Donc, l'adolescence, effectivement, avec tout ce qu'elle pouvait avoir.
Ce sentiment d'être incompris.
D'incompréhension, voilà, d'incommunicabilité, surtout dans ces sociétés voilà, un peu plus guindées que ne le sont les nôtres. Et puis, il montre malgré tout que... La maturité et la vieillesse aussi vont avoir leur part de difficultés. Donc, y a un jeu sur ce terme d'âge ingrat, effectivement, qui traverse la...
Mais en même temps, évidemment, cette fraîcheur, cette spontanéité, ces imprudences même qui peuvent être sympathiques, que l'on retrouve chez tous les jeunes. On voit aussi, il le mentionne, et on pense à Mauriac et à Julien Green, cette tension entre les pulsions sensuelles et cette aspiration à la chasteté morale née de l'éducation, l'éducation et de l'Église à l'époque.
Oui, lui a reçu cette éducation catholique stricte. Et effectivement, dans le premier cycle romanesque, le personnage de Gilbert Salamagnou dit à sa mère qu'il va écouter des conférences à l'Institut catholique et il va fréquenter un bordel du centre-ville. Donc, il y a toute cette hypocrisie sociale, effectivement, où on a à la fois ce discours très moralisateur et puis ces pulsions qui cherchent à s'exprimer d'une façon ou d'une autre.
Voilà. On voit aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, bon, il est contre la famille, il est contre la religion catholique, et puis il évolue. Je n'aime pas mon enfance, il commence par dire ça. Puis on va bien voir qu'au fil du temps, eh bien, il a la nostalgie de l'enfance, et la nostalgie des parents, etc. Et le rejet de la religion catholique, il la retrouve plus tard. D'ailleurs, je vous l'ai dit hors antenne, il écoutait Radio Présence. Il semble que la foi lui a été d'un grand secours pendant le STO.
Oui, cette question de la foi, elle est centrale dans toute son œuvre. Et effectivement, il y a des moments, sans doute dans sa jeunesse, où il s'est révolté contre une pratique peut-être hypocrite de cette religion catholique.
Et puis, il a eu des doutes.
Il a eu sans doute des doutes. Il a eu cette jeunesse un peu révoltée. Mais même dans le premier cycle romanesque, on peut voir apparaître des signes qui montrent que un des rares personnages positifs de ce premier cycle romanesque, c'est la mère, qui est une croyante authentique, qui est une image du dévouement, qui pendant la période des restrictions, pendant l'occupation, se prive pour sa famille. Et elle est une authentique chrétienne, donc le personnage le plus beau du premier cycle romanesque, ça reste cette image de la mère. Le père est un peu ridicule dans le premier cycle, mais la mère est vraiment touchante. Et puis ce retour de la religion, effectivement, raconte un épisode où il est en train de faire un service de presse chez Gallimard, il signe des livres, Et puis, il éprouve un besoin impérieux de se confesser. Et il va sortir donc de chez Gallimard, il va faire plusieurs chapelles à Paris pour trouver un confesseur. Et effectivement, on lui donne le Magnificat en guise de pénitence. Et il dit que depuis ce jour-là, le Magnificat a été sa prière quotidienne.
Et même, on a l'impression dans ses lettres de la Forêt Noire, on a l'impression quand même que c'est un secours pour lui, cette fois, face à ce qu'il découvre. C'est le sentiment que j'ai eu. C'est peut-être pas évident pour tout.
Non. Oui, non, moi je pense qu'il n'a jamais perdu la foi, en fait. Ouais. Il y a des périodes où il ne la montre pas dans son œuvre, mais c'est resté une question centrale pour lui. Et là aussi, dans les derniers textes, il dit que s'il croisait sa mère, arrivé lui à la fin de sa vie, plus rien ne les opposerait, parce que tout ce qui comptait pour elle compte aujourd'hui pour lui.
Mais en même temps, on reconnaît sa sincérité. Moi, ça me touche et ça me fait rire parce qu'il dira plus tard, la foi, elle a des hauts et des bas. Elle va et vient, voilà le malheur. Bon, c'est dit avec une spontanéité, mais en fait, beaucoup plus tard, il écrit « Un jour, dit-il, sans réfléchir ». Il écrit « L'éternel présent de Dieu » et il s'émerveille alors qu'à 76 ans, cette pensée, l'éternel présent de Dieu, lui vienne et qu'il puisse en être illuminé, lui qui ne la mérite pas.
Oui, tous les derniers textes ont cette lumière-là, en fait. On sent que la question est de plus en plus présente et centrale pour lui. Et il est effectivement dans une forme de... Il rend grâce, en fait, pour avoir reçu cette foi, lui qui ne la méritait pas.
Oui.
Puisqu'on l'a vu, c'est un moraliste très, très sévère avec lui-même. Donc, il ne loupe pas les autres, mais il ne se loupe pas lui-même dans l'œuvre.
Alors, il avait une forme de pessimisme, mais ce qui est rattrapé par cet émerveillement qu'il a devant la beauté du monde.
Oui. Devant la culture aussi, c'est un passionné de musique.
Et devant la nature.
Et devant la nature aussi, ce parc de Nolé.
Un écologique avant l'heure. Écologiste, pardon.
Ça n'a pas été un grand voyageur, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a vécu intensément cet environnement proche qui était le sien, oui.
Absolument. Un grand merci, Jacques Cantier. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage aux éditions Midi-Pyrénéennes, à nos auditeurs que j'incite à acheter cet ouvrage et d'autres aussi. C'est un coût modique, et ça donne un désir de compléter, si nécessaire, vous donnez quand même beaucoup d'informations.
C'est une là-dedans. Nouvelle histoire de Toulouse, finalement, qui se fait par ces fragments, mais qui, effectivement, sont à la fois accessibles, mais qui donnent beaucoup de...
Voilà.
Une synthèse actuelle sur les questions proposées.
Oui. Tout à fait. Édition Midi-Pyrénéenne. Et là, en l'occurrence, vous avez écrit José Cabanis, un Toulousain sous la coupole. Un grand merci à vous.
Merci à vous pour votre invitation.